Actu SF, les podcasts.
Nous allons parler cette fois-ci du design de la science-fiction, pas forcément en science-fiction, mais enfin on fera les deux. Vous l'avez remarqué de toute manière, un petit peu partout dans le paysage urbain, on trouve énormément de signalétiques qui font référence à la science-fiction. Il y a des jingles également. Et tout ce que l'on voit comme ça fait une référence à une science-fiction, alors que la science-fiction, en fait, n'est pas vraiment encore considérée, n'a pas encore eu vraiment ses lettres de noblesse. Donc on peut se demander pourquoi tout le monde se réfère à la science-fiction et qu'est-ce que ça traduit dans l'imaginaire des gens que ces emprunts, quoi. Alors pour en discuter, j'ai avec moi Saul Pandelakis, qui est maître de conférence en design, ça tombe bien, à l'université de Toulouse Jean Jaurès, et qui accueille des doctorants et des chercheurs au croisement des lettres, des langues et des arts. Il est auteur d'une thèse en cinéma sur les héros d'action à Hollywood, et il travaille actuellement dans ses recherches sur la domesticité, les féminismes cuir en cuisine et une possible sexualité avec les robots. Et justement, il a sorti un excellent roman, la séquence Hartmann, aux éditions Goather, et qui sortira bientôt donc chez ActuSF en poche. Azain, lui, est illustrateur de bande dessinée. Il a publié chez Delcourt, Bolshoï, Arena, sur scénario de Boulet. Et là, cette fois-ci, c'est un design que vous connaissez bien aussi, qui est celui des réalités virtuelles. Tout cet aspect numérique, évidemment. Quant à Hervé Le Sage de La Haye, c'est un chercheur indépendant dans les domaines du dessin animé et de la musique pour l'écran. Donc, il est compositeur depuis l'âge de 18 ans, d'abord pour piano, avec aussi le groupe expérimental Cube. Et il signe des musiques de scène basées sur des pièces de théâtre ancien, comme Casina de Plot, Oedipe Roi de Sophocle, et des textes de science-fiction, La savane de Ray Bradbury, et avec son frère Julien, La couleur tombée du ciel, un oratorio inspiré de Lovecraft, mais aussi du livre de Job. Et il a sorti un premier disque, Métamorphose, en 2018, autoproduit. Bon, donc je pourrais peut-être déjà vous demander qu'est-ce qui vous frappe le plus, qu'est-ce que vous remarquez le plus comme design de science-fiction dans votre environnement ? Hervé ?
Alors moi, je vais prendre un exemple très précis et qui m'a beaucoup frappé, et qui est la présence de la science-fiction dans le domaine aérospatial. Quand j'ai regardé en 2020 le décollage de la mission SpaceX, j'étais sidéré parce que j'avais l'impression qu'on avait conçu le design du vaisseau et des combinaisons en s'inspirant du cinéma et de la BD de science-fiction. Et au point que ça m'a mis un peu mal à l'aise. J'avais l'impression que le vaisseau était en Lego, que les astronautes avaient des combinaisons Playmobil, et je me demandais comment on pouvait faire confiance à ce dispositif. Par ailleurs, au-delà du malaise qui surgissait de l'impression d'avoir des jouets ou des décors sous les yeux, je me suis aussi demandé qu'est-ce qui pousse les gens qui conçoivent ces missions et le matériel à injecter de l'imagerie de science-fiction dans ces dispositifs. Est-ce que vraiment on a le temps de s'amuser à faire un vaisseau qui fait science-fiction quand on veut envoyer des gens dans l'espace? Et j'ai trouvé ça surprenant et honnêtement assez inquiétant, en fait. J'étais très mal à l'aise, et quand le décollage a été annoncé, j'étais sûr que ça allait louper, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de totalement inattendu. C'est la science-fiction qui imprègne tellement l'imaginaire collectif que maintenant les gens, bon, j'imaginais qu'ils sont très sérieux, qui travaillent pour envoyer des gens dans l'espace, s'amusent avec des éléments de science-fiction. Voilà, moi, c'est dans les exemples récents, le truc qui m'a le plus frappé et auquel je ne m'attendais pas. Et moi, personnellement, je préférais que ça soit évacué, quoi. Je ne comprends pas qu'on essaye de faire des fusées qui soient belles et presque ludiques, alors qu'il faudrait déjà qu'elles soient efficaces. Bon, voilà.
Oui, je peux peut-être rebondir là-dessus parce que je vois très bien les images dont tu parles, on en voit beaucoup, notamment des images de rendu pour de futures missions martiennes, ce genre de choses. Ce ne sont pas forcément des images qui me font peur, ce sont plutôt des images qui me dépriment, à vrai dire. Je trouve que ce sont des imaginaires très serrés, assez pauvres, au fond, dans lesquels, alors ce qu'on peut appeler une esthétique de science-fiction, rien que ce mot d'ailleurs est bizarre, esthétique de science-fiction. Et pourtant, si je vous dis... je sais pas, mon voisin a décoré sa chambre façon science-fiction, vous allez avoir des trucs en tête, même si c'est pas les bonnes choses. Donc ça montre bien qu'on a quand même un fond commun de ce qu'on appelle les esthétiques science-fiction. Au demeurant, sur ces images qui nous sont proposées comme étant des images du futur, c'est vraiment une toute petite vision de ce que pourrait être le futur et qui souvent est très resserrée sur la technologie, sur un devenir technologique, avec en plus des registres graphiques et plastiques auxquels moi je suis particulièrement sensible parce que c'est quand même mon métier. Et on se rend compte que ces images sacrifient beaucoup au faire futuriste plutôt qu'à la véritable projection vers des futurs vraiment pensables ou désirables. Et puis une autre chose qui m'intéresse dans ce que dit Hervé, c'est la manière dont bien sûr la science-fiction fictionnelle communique avec des projets en cours, des projets qu'on dira peut-être d'innovation. Moi je reviens souvent à une expression que j'aime bien, qui vient du chercheur David Kirby. Lui, il parle de prototype diégétique, c'est-à-dire la manière dont la science-fiction filmée notamment va proposer certains devenirs du design à travers des dispositifs qui n'existent pas encore mais qui pourraient exister. Et d'ailleurs, tiens, j'avais prévu une petite image, si on peut la voir, voilà, qui est vraiment l'exemple de prototype diégétique dont David Kirby se sert dans ses recherches, qui est ce dispositif là, tactile d'interface qui est manipulé par Tom Cruise dans The Minority Report. Et ce que dit David Kirby, c'est que c'est vraiment des dispositifs qui en fait sont projetés comme pouvant exister 20, 30 ans plus tard, et qu'une des manières dont les cinéastes et toutes les personnes qui travaillent au film vont rendre le prototype crédible, c'est en le faisant dysfonctionner. Et il y a notamment une scène dans Minority Report où quelqu'un rentre dans la pièce alors que Tom Cruise manipule cette interface et puis il fait un faux mouvement pour lui dire bonjour et ça balaie des fenêtres par accident sur le côté, ce qui bien sûr pas ce qu'il veut faire à l'interface. Et ce que dit Kirby, c'est au fond, la manière la plus crédible qu'on puisse avoir pour un objet d'exister, c'est quand l'objet dysfonctionne. On croit presque mieux à quelque chose qui a la capacité de ne pas marcher qu'à quelque chose qui marche systématiquement. Donc voilà, moi c'était plutôt cet exemple-là que j'avais en tête. Mais je ne sais pas si te fait écho ou si t'as inspiré pour ta vidéo.
Moi, je reviendrai plus à la question. Oui, moi je m'inspire par exemple de beaucoup d'objets du quotidien pour créer des objets. Comme je suis dessinateur sur la bande dessinée et pas scénariste, donc je suis en charge de tout le design. N'ayant pas une grande culture de science-fiction, je m'inspire par exemple des démarches d'auteurs de bandes dessinées. Par exemple, Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, qui s'inspire d'objets du quotidien pour créer des vaisseaux ou des motos dans Dragon Ball. Moi, dans Bolshoi Arena, je me suis servi d'un cutter, par exemple, pour faire une espèce de voiture personnelle pour l'héroïne que j'ai adaptée, donc avec certains codes. Mais pour revenir à la question de base, l'esthétique SF, comme moi, personnellement, je voulais être dessinateur depuis mes 8 ans. Je vis, en fait, c'est pas que je suis resté bloqué dans l'enfance, mais je vis dans un monde de science-fiction permanent. Donc je suis pas non plus un ravi de la crèche, mais le fait qu'on ait tous des téléphones et des smartphones, que je puisse dire que je suis en conférence sur Internet 2 secondes avant d'y être, pour moi, je suis dans une espèce de science-fiction permanente. Et comme une de mes références visuelles et artistiques, c'est Akira de Katsuhiro Otomo, qui se passe dans le manga précisément en 2019. Je suis littéralement, et comme par exemple il avait prévu que les Jeux Olympiques auraient lieu à Tokyo en 2020, comme dans Akira, comme dans la vraie vie, Voilà, j'ai toujours ce recul et de me dire que je vis dans le monde qui m'a fasciné, dans lequel je vivais étant enfant. Je vis dedans, en fait. Donc, finalement, je suis dans le futur, là, en 2022. Donc, c'est pas pour ça que je suis resté bloqué dans les années 80, là où tout ça s'est forgé pour moi. Mais ça me permet de me dire que c'est pas fantastique, c'est pas, comment dire, irréel, la science-fiction. C'est où on est dedans, en fait. Je sais pas, c'est une alchimie entre le présent et une espèce de futur imaginé. Et si j'imaginais quelque chose qui n'arrive pas encore, ça semblerait faux. Et le dysfonctionnement, par exemple, des machines, je trouve ça assez juste. Par exemple, si mon héroïne démarre son vaisseau et que ça marche pas, il faut qu'on sente le poids du vaisseau. Dans le design, il faut qu'il soit un peu crado, qu'on ait l'impression qu'on sente l'huile de moteur. Etc. Et la transmission de l'odeur, par exemple, en bande dessinée, ça m'intrigue beaucoup. L'ambiance, en fait, comment ça sent dans un garage, comment ça sent dans un vaisseau spatial. J'essaye de retranscrire ça avec mes couleurs, avec mes sons, avec le langage de bande dessinée. Mais oui, c'est pas quelque chose qui est hors de nous. Je voudrais qu'on ait l'impression qu'on est dans cette science-fiction, en fait, en lisant les pages.
Ouais, c'est vrai que au début, on nous montrait des vaisseaux spatiaux rutilants et autres pour peut-être caractériser l'efficience de nouvelles technologies, alors qu'après, on préfère quand même donner de la patine parce que ce sont des objets dont on se sert. Et puis les pannes, c'est très intéressant aussi pour expliquer comment fonctionne l'engin. C'est là que l'on comprend qu'il y a un problème. Où est le problème ?
La panne, alors c'est un aspect, et le second aspect que tu évoques, en fait, j'ai l'impression, dans ton propos, c'est aussi l'obsolescence des objets. La science-fiction, qui entre guillemets, moi, me paraît la plus fake ou la plus artificielle en termes d'esthétique, encore une fois, hein, quand je la regarde, c'est celle où tout le monde vit dans un environnement où tous les objets semblent avoir 2 ans d'existence. Alors qu'on se rend bien compte, nous, aujourd'hui, en 2020, on prend des métros qui ont été conçus dans les années 70. Enfin, on vit dans un environnement d'objets. Certains sont très contemporains, hyper contemporains, surtout avec l'obsolescence programmée. Mais enfin, voilà, par exemple, ce palais des congrès n'a pas été construit hier. Donc, il y a quand même une historicité des choses qui nous entourent. Et à mon sens, un exemple de science-fiction qui marche assez bien pour parler de ça aussi, c'est Retour vers le futur 2, où le moment le plus pertinent dans ce film qui, bon, est quand même assez... plutôt réalisé sur le mode du pastiche, c'est le moment où Marty McFly visite le magasin d'antiquités dans lequel se trouvent en fait des objets qui sont de son présent. Et donc soit la panne, soit l'obsolescence anticipée participe à créer cette crédibilité. Mais enfin, dans notre propos, et que j'entends, hein, quand tu dis « je veux qu'il y ait du poids », on tend à dire que ce qui ferait le critère d'une bonne esthétique de science-fiction, ce serait entre guillemets son réalisme ou sa crédibilité. En fait, rien ne dit que y croire soit un nécessaire prérequis. Ça peut être une intention, ça semble être la tienne, mais on peut aussi imaginer des choses complètement fantasques, voire même impossibles à croire et qui fonctionnent très bien.
Par exemple, juste rebondis sur l'historicité, un exemple qu'on a utilisé dans Bolshoï Arena, par exemple, c'est que c'est même si ce n'est pas daté, on devine que ça se passe à la fin du 21e siècle, début 22e. Et l'héroïne qui apprend à le Bolshoï, parce qu'elle ne connaissait pas, conçoit son vaisseau. Et un ami plus expérimenté qu'elle se moque en fait de ses choix et lui dit « mais t'es né dans les années 40 ou quoi ?» Donc en fait, on crée les années 40, 2040. Donc comme si c'était une vieille personne de cette époque-là. Donc on crée, voilà, on passe pas de 2020 à 2090 d'un coup. On sous-tend qu'il se passe quelque chose dedans et qu'effectivement la ringardise ou la vieillerie se déplace et que les codes temporels sont finalement les mêmes dans 100 ans ou comme il y a 100 ans, etc. etc. quoi.
Tu voulais intervenir, Hervé ?
Oui, je vais juste prolonger un peu ce que tu disais sur Retour vers le futur 2. D'abord, je trouve que c'est un film qui est intéressant parce que c'est un film qui fait une fausse promesse qui, en fait, ne sera pas tenue. C'est-à-dire qu'on croit que c'est un film qui va se passer dans le futur. En fait, la partie qui se situe dans le futur est extrêmement brève et on ne voit absolument rien à part un magasin d'antiquité et un bar avec des vieux jeux vidéo. On ne voit rien du futur dans lequel on prétend nous emmener. C'est quand on revoit le film, je trouve assez frustrant. Moi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a pas frappé. Mais maintenant, je trouve que le film nous ment assez largement sur ce qu'il va nous donner. Il y a une grande difficulté dans la représentation du futur proche au cinéma, qui est l'envie de faire voyager le spectateur, voire de le faire rêver. et qui conduit à l'oubli de ce que c'est que le futur proche. Et effectivement, enfin, quand on marche dans la rue aujourd'hui, dans une ville, on va croiser des voitures qui ont encore entre 30 et 40 ans pour beaucoup. Les films des années 80 qui se passent dans les années 2000-2010 ont oublié de mettre des Peugeot 205 dans la rue, par exemple. Alors est-ce que c'est grave ? Peut-être pas, mais l'esthétique de la science-fiction au cinéma, elle repose souvent sur cette tricherie qui consiste à ne montrer du futur que des choses que nous ne connaissons pas, alors qu'il devrait y avoir 90% de l'environnement qui est très proche de celui que connaît le spectateur. La vie quotidienne qui est la nôtre aujourd'hui, elle est faite de plein d'objets qui n'ont pas changé depuis qu'on était enfant. En général, le cinéma décide de faire l'impasse là-dessus. Ça serait intéressant de faire l'effort de proposer des récits où cette superposition des objets et des esthétiques est assumée et poussée le plus loin possible. L'autre chose qui me frappe aussi, c'est que l'immense succès d'un certain nombre de productions cinématographiques des années 80 dans le domaine de la science-fiction a changé le regard qu'on porte sur la science-fiction et l'importance qu'elle a dans l'imaginaire. Voilà, je ne vais pas jouer les vieux fossiles, mais bon, j'ai connu une époque où j'étais lycéen, où quand on parlait de Star Wars, qui s'appelait encore La Guerre des Étoiles, il y avait quand même une partie des camarades de classe qui vous regardaient un peu bizarrement. On ne savait pas encore, mais on était en fait des geeks à cette époque-là. Bon, maintenant, c'est complètement différent. Tout le monde a vu Star Wars. Maintenant, le sujet, ce n'est pas « Papa, il y a Star Wars qui passe à la télé, est-ce que je peux regarder ?» C'est « Ah, chérie, il y a Star Wars qui passe à la télé, on regarde avec les enfants. » T'es sûr qu'à 3 ans c'est déjà bon, voilà, maintenant tout le monde est pressé de consommer de la science-fiction en famille. Il y a eu un besoin de science-fiction quand on était amateur de science-fiction il y a 40 ans qui est incompréhensible aujourd'hui, je trouve. Enfin, moi j'ai vécu un manque de science-fiction à un moment donné. Bon, aujourd'hui, c'est invraisemblable, ça n'existe pas. On ne peut pas manquer de science-fiction, elle est absolument partout. Un festival comme celui-ci le montre. Alors, il suffit d'entrer dans la librairie pour se noyer dans la science-fiction. Mais moi, je n'ai pas connu d'expérience comme celle-là quand j'avais 16 ou 20 ans. Je m'éloigne un petit peu du sujet. Mais
Après, la question, c'est aussi de savoir si dans cette offre qui, effectivement, est pléthorique, je pense qu'on peut être relativement collectivement d'accord là-dessus, il y a une vraie ouverture des imaginaires et une vraie variété dans ce qui est représenté.
Ah oui, non, ça je ne suis pas sûr du tout.
Une variété de points de vue, voilà. Fin...
Non, parce que comme tu le disais tout à l'heure, la science-fiction qui a triomphé et qui a le plus imprégné, qui s'est le plus répandu dans l'environnement, dans les représentations qu'on fait du futur, c'est une science-fiction très stéréotypée, très technologique. C'est intéressant de regarder dans la boutique du festival toutes les affiches des Utopiales sur 20 ans. Il y a une petite évolution qui se fait ces dernières années, mais quand même la prééminence du vaisseau spatial comme emblème de la science-fiction, elle est vachement intéressante. Bon. Voilà, un film comme 2001 nous promettait un futur très proche avec des vaisseaux absolument partout. Un film comme Blade Runner nous promettait des voitures qui volent. Bon, tout ça, on n'y est toujours pas et on n'y sera sans doute jamais. Et néanmoins, ce sont ces éléments-là qui semblent les symboles principaux de la science-fiction, qui sont les déclencheurs de l'imaginaire de la science-fiction. Mais c'est très, très, très restrictif, très... Détriqué, à mon avis.
Peut-être tout dépend aussi ce qu'on fait du vaisseau. Enfin, moi, ça me parle énormément parce que bah, dans le roman que j'ai écrit, il se trouve qu'il y a un vaisseau. Et en t'écoutant parler, je me rends compte que je n'ai jamais abordé ce vaisseau comme vaisseau. Enfin, ou très peu, parce qu'il a fallu justifier de quelques éléments de voyage interstellaire. Donc voilà, là-dessus, j'avais un copain au CNES à qui j'ai posé 3 questions, histoire que ce ne soit pas complètement absurde. Mais on n'est pas du tout dans de la hard SF. Et quand j'y repense et que je me rappelle un peu l'écriture de cette chose-là, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai surtout abordé le vaisseau comme de l'architecture d'intérieur, en fait, et donc comme un habitat. Donc ce vaisseau est au fond un prétexte, c'est quasiment un cheval de Troie. Je présente un vaisseau et je donne aux gens peut-être l'impression qu'on va être sur du voyage spatial, alors qu'en réalité, c'est vraiment une réflexion sur l'habitat et sur la domesticité. Donc c'est là aussi où la question de l'esthétique SF est intéressante, c'est qu'on est capable avec certains éléments, donc par exemple des choses en métal qui brillent, ou l'association des néons et de la pluie pour faire cyberpunk, enfin que sais-je, voilà, toutes ces choses-là, on peut faire clignoter très fort la sensation d'un futur ou de quelque chose de futuriste. Mais on peut ensuite complètement faire plier ces apparences, on va dire premières, et ensuite venir travailler autre chose au sein de ces esthétiques. Et je ne sais pas si ça te fait écho, toi, sur ta bande dessinée, parce que ce n'est pas parce que tu représentes peut-être un vaisseau que ton intérêt, c'est le design du vaisseau à proprement parler.
Non, en fait, oui, l'héroïne a un vaisseau à elle que je voulais un peu iconique. Toujours pour revenir, j'ai des obsessions visuelles, mais par exemple, dans Akira, le Kaneda a sa moto. Et Otomo disait, par exemple, dans une conférence, qu'il avait vraiment pris sciemment la moto de Tron. Et pour pas que ça se voit trop qu'il avait copié, il lui avait mis plein d'autocollants dessus pour cacher ça, en fait. Et moi, je voulais aussi que mon héroïne, elle ait un vaisseau à elle et qu'il soit une extension d'elle, en fait, un attribut. Et je me suis servi de mes lacunes techniques en 3D, sur les logiciels 3D, pour faire un truc complètement un peu de guingois, en fait, avec des plaques et pas du tout aérodynamique, un peu à l'ancienne. Et, mais du coup, c'est son vaisseau à elle, avec des formes bien particulières. Justement, j'ai repris un peu la forme du cutter, mais sans la lame, en fait, pour faire deux espèces de branches comme ça. Et j'envisage toujours à partir de mes lectures d'enfant comme principe, peut-être de le faire évoluer d'un point de vue du design, donc pour que ce soit une espèce de chose vivante et évolutive, comme le personnage évolue dans l'histoire. Sa perception du monde évolue et d'un point de vue scénaristique, elle n'est plus la même au début et à la fin. Le vaisseau, ce sera pareil, donc c'est une extension d'elle. Donc, c'est pour moi, c'est l'héroïne sous forme de machine. Et je prends comme mon exemple que j'envisage, c'est dans Spirou et Fantasio, par exemple. Ils ont une voiture aussi iconique qui s'appelle la Turbotraction, qui a un premier design et ensuite qui a été redesignée par Franquin. Donc il y a deux versions de la Turbotraction et j'ai cette idée d'évolution pour le vaisseau aussi. Voilà. Donc, je le vois plutôt comme... je me rends compte, c'est peut-être un peu commercial comme idée, mais c'est que j'ai envie que les gens aiment le vaisseau comme ils aiment l'héroïne et qu'on soit attaché au vaisseau comme à l'héroïne. Donc, pour moi, c'est une extension du personnage de l'héroïne.
D'accord. Ce que j'entends souvent, là, c'est que ce sont mes rêves d'enfant. Donc, et ce que disait Hervé aussi, c'est que le design qu'on nous montre est quelque chose de, qui parle à un grand public. Hein. Il faut forcément qu'il soit stéréotypé de cette manière-là pour pouvoir parler au plus grand nombre. Et j'ai l'impression que le design que l'on peut voir dans l'environnement, c'est une façon de vendre du rêve. Ou peut-être une promesse d'avenir. Moi, adolescent, je me souviens d'une chose. Dans les années 60, tous les noms de sociétés associaient le terme 2000. Il y avait les machins 2000, Optica 2000. Enfin bon, il y avait du 2000 partout, comme déjà une promesse de futur. Donc, est-ce que c'est ça qui caractérise vraiment le design de science-fiction, cette promesse d'avenir? Ou est-ce qu'il y a peut-être aussi autre chose? Il y a peut-être aussi un désir de réalisation, comme une prophétie autoréalisatrice. Lorsque l'on voit certaines choses, ça nous fait rêver. Peut-être qu'après, ça adviendra de la manière dont ça a été présenté dans la science-fiction. Et puis peut-être parler aussi du lettrage, qui a un certain design. Et là, peut-être le dessinateur pourrait en parler.
Oui, le lettrage... moi, dans... dans le Bolshoï, donc dans la version virtuelle du monde, je mets beaucoup de choses qui m'ont nourri. Moi, j'ai découvert la science-fiction par le jeu vidéo, en fait. J'ai eu un Atari 520ST quand j'avais 8 ans, qu'un copain m'avait prêté. Et il venait jouer avec ces jeux. Et donc, j'ai découvert quelque chose de finalement minimaliste, bon, qui n'était pas pour moi à l'époque, mais maintenant, je me rends compte que c'était minimaliste. Et quand je suis devenu dessinateur, je me suis rendu compte que ce minimaliste était pour moi très important. Voilà, on dit 2000, pour moi 2000 ce sera toujours le futur. En fait, même si c'était il y a 22 ans, on ne peut pas faire plus futur que 2000 pour moi. C'est une année qui est aussi un concept. Et en fait, ça, c'est plus une année banale, mais c'est devenu pour moi le futur en fait. Donc voilà. Plutôt que de sur-signifier par le visuel ou par le nom, par les mots, je préfère le minimalisme, en fait. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends Moebius, le dessinateur qui est une de mes références aussi, quand il travaille avec Jodorowsky dans l'Incal, Jodorowsky, il va vous noyer sous des noms techniques, ou comme dans les technopères, etc., qui sont une espèce de charabia, et en fait, c'est trop pour moi. Déjà scénaristiquement c'est très difficile à suivre, mais par contre Moebius, quand il va faire sur l'étoile, un personnage va juste dire une phrase qui pour moi est SF, alors qu'il n'y a rien de SF dedans. C'est les deux personnages principaux qui se promènent dans l'espace et qui dit on pourrait aller sur Terre, et elle dit ah oui moi j'aime bien la Terre, et comme nous on dirait on pourrait aller en Italie, moi j'aime bien l'Italie. Donc juste que le fait que la Terre soit une planète parmi d'autres, comme un pays qu'on visiterait, c'est très léger en fait, c'est une phrase qui veut rien dire, mais ça change de point de vue, et ça rejoint cette esthétique minimale des jeux vidéo de mon enfance, où en 3-4 pixels on part de quelque chose. En fait, on part de 3 mots, on part de 3 pixels, et après ça cultive l'imagination. Je pense qu'il faut pas trop dire, après c'est mon point de vue personnel par rapport à ça, mais je préfère quelque chose qui induit plutôt que quelque chose qui dit.
Je veux bien rebondir sur quelques petites choses que tu as dites. Alors déjà, c'est super vrai, cette idée des années 2000 comme concept. Moi, je me rappelle vraiment enfant, c'est un souvenir extrêmement fort d'avoir mes parents qui me ramènent Mickey Magazine à la maison, qui était spécial en 2000, avec vraiment des visuels, mais vraiment que je me remémore au point que je pourrais probablement les dessiner. Alors avec absolument tous les clichés du genre, c'est-à-dire on sera dans des voitures qui volent, on ira voir du cinéma holographique, bon c'était pas tout à fait à côté de la plaque, on se nourrira plus que de pilules, enfin voilà, vous connaissez très bien tout ce bingo du futur classique. Et ce qui me frappe en fait dans ces visions, et finalement cette limite, puisque c'est aussi le sujet des utopiales, que nous n'avons pas dépassé à l'endroit des esthétiques de science-fiction, c'est la question de l'accès et du pour qui. On est toujours dans cette espèce de limite du rêve moderne, voire moderniste, d'un robot qui va venir, une technologie, donc par exemple le robot qui nous libérerait du travail et on vivrait une vie de liesse et de jouissance, où on va tous et toutes se nourrir de pilules, on va tous et toutes conduire des voitures volantes, alors qu'on sait très bien que jamais dans l'histoire de l'humanité on a tous et toutes fait quoi que ce soit. Les progrès technologiques, même les esthétiques les plus futuristes ou les plus séduisantes ou les plus d'avant-garde, sont d'abord le privilège de la classe sociale privilégiée. Donc déjà, ça me paraît être une chose qui serait intéressante à représenter. Et puis sur la question de la petite touche, je trouve ça aussi très intéressant. J'ai l'impression de le faire aussi à l'écrit, même si bien sûr c'est plus dur, parce qu'il faut compter sur l'imagination des lectrices. Ce que je trouve passionnant, en tout cas dans cette écriture, et d'évoquer des objets par les mots, c'est la manière dont on peut décrire des objets pour les rendre signifiants ou significatifs d'une culture industrielle aussi. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de dire comment les objets ont été fabriqués, mais que les décrire, en donner les qualités, pourquoi pas des indications sur les matériaux, renvoie à une culture industrielle, ce qui, à son tour, peut dire des choses sur le capitalisme et dire des choses sur un système politique. Donc on n'est pas forcément obligé, quand on construit un monde, quand on fait du world building, de dire voilà comment les gens votent, voilà comment les gens s'articulent, voilà quels sont les systèmes de pouvoir. Finalement, on peut décrire une fourchette ou un téléphone, et c'est un indice presque aussi fort du système politique dans lequel on se trouve. Enfin, idéalement, je ne sais pas si j'arrive à le faire, mais voilà.
J'allais justement te poser la question, Hervé, mais réponds.
Ah oui, mais si j'ai pas la question, c'est difficile.
Non, mais réponds sur ce que dit Sol, pardon.
Non, oui, je voulais juste ajouter une petite chose sur les promesses de l'an 2000. Moi, je me souviens effectivement de ces magazines jeunesse, hein, et c'est ça qui est intéressant parce que on s'adressait aux enfants pour leur faire des promesses sur l'an 2000. Je me demande s'il y avait pas quand même inconsciemment une manière de modeler notre imaginaire pour nous faire avaler un certain nombre de couleuvres. En tout cas, parmi ces promesses, il y avait aussi la promesse, par exemple, de la maison de l'an 2000. Alors, on est dans les années 80 où déjà, parmi les grandes questions non résolues, il y a la vie dans les banlieues, les barres d'immeubles, etc. Mais c'est ça, c'était pas le sujet. On allait tous vivre dans des maisons intelligentes et puis le robot irait faire les courses, etc. J'ai beaucoup, beaucoup rêvé là-dessus. Hein. J'ai adoré. Ça décrit une vie qui, alors non seulement ne pouvait pas être celle de tout le monde, mais qui en fait, même aujourd'hui, n'est celle de personne. Et ça, c'est très curieux. J'aimerais, si c'était possible, discuter avec les gens qui rédigeaient ces textes et qui faisaient ces dessins pour leur demander d'où ça vient, en fait. Quelle est l'intention, d'où sort leur enthousiasme à imaginer ces futurs qui étaient déjà improbables en réalité.
J'ai une hypothèse de réponse. À mon avis, il faut se tourner non pas vers le cinéma de fiction qu'on va voir en salle ou sur son ordinateur à la maison, mais sur un type de contenu très spécifique qui est la vidéo de démonstration des grandes marques. Ça existe depuis les expositions universelles des arts ménagers. Ça remonte quand même au début, enfin, ou après-guerre, on va dire, en France et pas que. Les grandes marques, que ce soit des marques de matériaux ou des marques comme Thomson ou Philips, produisent des contenus filmiques qui évoquent, alors, empruntent des codes à la SF pour raconter et faire rêver et en même temps projettent ce qui sera leur marché futur. Et ces vidéos-là sont absolument fascinantes. Moi, je m'y intéresse un peu dans mes recherches. Et elles sont souvent aussi très décourageantes. C'est-à-dire que quand tu dis la maison connectée, c'était absolument affligeant, ou la maison intelligente, on nous resserre cette même soupe aujourd'hui. Alors, ça rutile et c'est fait avec des outils 3D, donc on a l'impression que c'est futuriste. Mais en réalité, sur les imaginaires, les valeurs, la domesticité que ça produit, la relation à la production, la relation à l'urbanité et tout ça... Il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport aux années 60. Enfin, ce sont des contenus qui s'analysent, hein, j'entends, ça reste significatif. Mais ça ne renouvelle pas fondamentalement la manière dont on anticipe l'habitat du futur, si on tient à cette expression.
Oui, on reste dans des représentations, finalement. Et je poserai la question à Hervé aussi par rapport à la musique. Il y a une manière d'illustrer la science-fiction avec... peut-être un certain type de musique, c'est quoi? Alors peut-être des instruments, genre thérémine.
Alors ça, c'est un sujet que j'adore. Hein. Donc je vais essayer de pas confisquer la fin de cette table ronde. Donc il faudra me couper. Donc le cinéma s'est trouvé confronté à cette question. Quand un film se déroule dans le futur, quelle musique on va faire entendre au spectateur? Il est relativement aisé d'imaginer le moment où le réalisateur, les producteurs vont recruter des décorateurs, des costumiers, en leur disant imaginez-nous, voilà, dessinez la ville dans laquelle va se passer notre histoire, dessinez les vêtements qu'ont porté les personnages et faites-nous des trucs qu'on n'a jamais vus. Et au fond, là, même si on dessine des costumes qui ne fonctionnent pas ou des villes qui ne pourraient pas vraiment exister, ce n'est pas un problème, on peut faire tout ce qu'on veut. En musique, ça ne marche pas. Donc j'ai coutume de dire, c'est une idée à laquelle je tiens, il n'y a pas de musique de science-fiction. On va aller voir un compositeur, on va lui dire fais-nous une musique du futur. Quoi qu'il fasse, il va faire une musique qui va être composée le jour où il la compose et qui donc est une musique du présent. Quand bien même, il chercherait à utiliser des instruments improbables et même il en inventerait un, à partir du moment où il a inventé, ça devient un instrument du présent. Donc on ne peut pas faire de musique du futur, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, le problème, c'est comment on se débrouille pour faire croire au spectateur qu'il va voyager dans le son et pas seulement dans le temps. Il va y avoir dans les films de science-fiction deux défis différents qui vont être à relever. Il va y avoir d'abord quelle musique on fait entendre à l'arrière-plan du film, c'est-à-dire la musique qui accompagne l'action. Là, en gros, il y a deux voies qui existent. Il y a une première voie qui a été proposée par Kubrick dans 2001, qui consiste à utiliser des musiques dans son film que pratiquement personne, en tout cas dans le grand public, n'avait encore entendu à l'époque où le film sort en salle. Et donc là, il utilise des œuvres de Ligeti, un compositeur hongrois qui était contemporain du film. Et les œuvres de Ligeti qu'on entend dans le film sont extraordinaires au sens où on n'avait jamais entendu ça au cinéma avant. Et d'ailleurs, voilà, il y a certaines de ses œuvres qu'on entendait pour la première fois puisqu'elle n'était même pas disponible au disque au moment où le film sort. Et ça permet de produire un effet d'étrangeté totale. En plus, le fait est que les œuvres de Ligeti sont écrites d'une manière qui fait que voilà, on peut avoir à certains moments du mal à identifier même les instruments qu'on entend, la manière dont les couches se superposent. Moi, la première fois que j'ai vu 2001, quand arrive pour la première fois le monolithe au début du film à l'époque préhistorique, je vous avoue que quand la musique de Ligeti arrive pour la toute première fois, je n'ai pas tout de suite compris qu'il s'agissait de musique. J'ai entendu une espèce de bourdonnement, etc. J'ai cru que c'était un bruitage et j'ai mis un certain temps avant de comprendre que non, ce qu'on entendait c'était en fait un chœur qui prononce un texte en latin, hein, alors qu'il est inintelligible, mais c'est... pardon. À ce moment-là, c'est du grec, puisque c'est un kyrie. Mais voilà, c'est une messe de requiem qu'on entend. Le texte ne sera pas distinct pour le spectateur du film, mais pourtant, il est là. Et voilà, ça, c'est une des options, c'est choisir des musiques vraiment que personne n'a entendues et qui vont donner l'impression qu'elles viennent d'ailleurs. Maintenant, ça marche dans un premier temps, mais voilà, 40 ans après, c'est déjà différent. Ensuite, l'autre possibilité, c'est de dire « Ok, on va faire les choses complètement différemment ». C'est l'option qui est choisie par Georges Lucas dans « Les gardes des étoiles ». C'est au contraire d'ancrer le film dans quelque chose de relativement familier, c'est-à-dire c'est un film de science-fiction, mais c'est aussi un film d'aventure. Donc on va proposer une musique symphonique qui repose sur des codes anciens qui sont ceux de la fin du 19e siècle. Et la science-fiction du film, elle ne fonctionnera pas par la musique. La musique, elle est là au contraire pour aider le spectateur à entrer dans cette histoire un peu étrange. Bon, mais ça, c'est les musiques qui accompagnent l'action. Maintenant, il y a un autre problème qui est qu'est-ce qui se passe quand, dans l'histoire, les personnages vont au concert, vont au café, allument la télé et qu'on entend de la musique. Et là, normalement, là, le défi, c'est de faire entendre la vraie musique de l'an 2000, la musique du futur. Bon, et ben là, très souvent, les films trichent. Très souvent, et alors par exemple, Retour vers le futur 2, c'est un exemple génial. Les 10 minutes du film qui se passent dans le futur, eh bien, on n'entend pas de musique du futur parce que le héros, il va dans un café où on passe de la musique des années 80. Alors c'est aussi parce que c'est un film qui est une honteuse auto-célébration des années 80 par elle-même, hein, ça... donc le film décide de célébrer Michael Jackson alors que ça aurait été tellement amusant de nous montrer un chanteur du futur, mais pas du tout. Non, c'est là, ça n'a aucun intérêt pour Robert Zemeckis. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer à quel point l'époque dans laquelle lui-même travaille est géniale. Et très peu de films osent se relever ce défi qui est nous montrer quelles sont les musiques que les gens du futur entendraient. Et quand ils essayent de le faire, et ben c'est très difficile. Alors, je vais prendre un seul exemple, qui est l'exemple du Cinquième élément de Luc Besson, qui n'est pas tellement un film que j'aime, hein, mais que je trouve intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il y a une scène d'opéra. Et alors, dans cette scène d'opéra, avec son compositeur Eric Serra, ils ont fait un truc invraisemblable. C'est que il y a d'abord un extrait d'un opéra classique. Je crois que c'est un air de Lucia di Lammermoor, il me semble, de Donizetti. Et puis après, ils se sont dit, et puis alors, tiens, on va s'amuser, on va quand même écrire une vraie musique du futur. Alors déjà, l'arrogance, enfin l'inconscience qui consiste à dire, tiens, on va mettre du Donizetti, puis après, je vais faire une petite compo personnelle, puis ça va s'enchaîner. Ça va être aussi bien que Donizetti. Bon. Et là, donc, il y a une cantatrice sur scène qui chante un air d'opéra du futur. Ils se sont amusés à relever un défi technique qui consiste à lui faire chanter un air dont l'étendue entre les graves et les aigus est supérieure à ce que la voix humaine est capable de faire, en travaillant la voix en studio. Et donc, on entend cet air dans le film. Alors, on pourrait s'attarder pour essayer de l'analyser sur le plan de l'écriture. C'est de la pop des années 90, extrêmement simple. Et le gag, en fait, c'est que tout le temps qu'ils ont passé à faire en studio, à faire à la voix des choses que la voix humaine est censée ne pas être capable de faire, eh bien, en fait, ils sont pas allés assez loin, parce que par la suite, des tas de chanteurs à travers le monde ou de chanteuses se sont essayés à chanter cet air qui normalement n'est pas chantable par la voix humaine et ont réussi à le faire. Et donc, dans tous les télécrochets du monde, dans les The Voice du monde entier, il y a régulièrement des gens qui viennent chanter l'air du cinquième élément et qui y arrivent. Et donc, cette musique du futur, elle n'est pas du futur, elle est d'aujourd'hui. Et donc, de nouveau, c'est un échec.
Je trouve intéressant aussi qu'on parle de musique parce que c'est vrai que le sujet de la table ronde, les esthétiques, comme on est, enfin ce mot d'esthétique, comme nous sommes quand même dans une culture où le visuel a une certaine prépondérance, on va tout de suite se dire image et représentation, voilà, visuelle. Mais c'est vrai que les paysages sonores sont extrêmement importants en science-fiction et font partie du champ du design. Même si, alors, en plus, c'est amusant ce que tu disais, Hervé, parce que typiquement, moi, c'est un truc qu'on m'a reproché dans mon roman, parce que ça se passe dans 100 ans, mais c'est vrai qu'il y a des références musicales, alors, d'aujourd'hui ou de gens dont je me dis que peut-être ils exerceront encore à 80 ans façon Mick Jagger en disant je tiens le coup jusqu'en 2080. Mais on m'a dit que ça faisait potentiellement sortir les lectrices du récit. Mais bon, moi je trouve que c'est de toute façon une mécanique presque obligée de la science-fiction d'opérer aussi sur ce mode du rétro-futur, voilà, d'envisager ce qui est du passé qui sera dans le futur ou qui inversement sera vintage. Enfin voilà, cette espèce de circularité me semble inévitable. Au passage, parce que j'ai été assez négatif aussi dans mon propos précédemment, j'avais tendance à dire qu'il y avait une fermeture des imaginaires, à dire qu'on manquait d'images, il y en a quand même qui existent, bien sûr. Moi, une que j'aime beaucoup en termes de projection, c'est dans le film de Spike Jonze, Her, qui s'achemine vers ses 10 ans progressivement, où on est vraiment sur un paysage sonore du futur. Et les esthétiques, même relationnelles, enfin, les usages qui sont mis en place, ne sont pas question d'interface, bah, comme on a vu tout à l'heure avec Minority Report, des choses qui mobilisent du graphisme, de la typographie, etc., mais qui mobilisent vraiment, enfin, une interface sonore, ce qui était relativement visionnaire, puisque très peu de temps après, les interfaces vocales se sont quand même bien banalisées. Mais je trouve intéressant aussi de se dire, finalement, est-ce que penser un futur possible serait pas d'imaginer un monde où le visuel prendrait moins de place ou n'occuperait pas la même place. Et ça aussi, c'est, à mon avis, presque aussi difficile que d'imaginer la musique du futur.
Ben, moi, ce que je retiens, c'est le côté décalage et le côté jamais entendu avant, en fait. C'est un peu une des prétentions de la science-fiction, c'est dans le postulat, c'est de montrer des choses qui n'existent pas et effectivement, choisir une musique qui est inconnu du grand public ou très peu connu à part par une niche, crée ce décalage. Je reprends une nouvelle fois l'exemple d'Akira, mais pour la musique du film, et ils ont fait appel à des musiciens traditionnels japonais avec des sons qui ne sont pas du tout des années 80 ou 90, donc il n'y a pas de saxophone, il n'y a pas de guitare électrique ou de choses comme ça. C'est quelque chose de très folklorique, en fait. Et maintenant on y a accès, mais quand on voit ces musiciens-là, donc j'ai oublié le nom japonais, effectivement ça fait très, très ancien et très rituel, et ça confère à Akira ce côté angoissant avec ses tambours et ses battements, etc., avec des instruments qui sont anciens, en fait, qui ne sont pas du tout électriques. Et c'est ce décalage aussi entre les images et le propos du film et la musique qui fonctionne comme la musique classique dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ou c'est utilisé dans d'autres genres, par exemple dans un film d'horreur, s'il y a un massacre, on va mettre de la musique classique par-dessus. Donc c'est voilà, moi, comme c'est que de la bande dessinée, c'est juste le son que j'écoute, en fait. Donc j'imagine parfois des chansons que j'aime sur certaines images, et c'est forcément des musiques que j'écoute maintenant, aujourd'hui, et qui seraient en décalage. Et effectivement, comme tu disais très bien, quelqu'un dans 100 ans qui écoute de la musique d'aujourd'hui. Ça fait comme si en 100 ans, il n'y avait eu aucune création musicale, ce qui n'est absolument pas possible, quoi. Donc, c'est quelque chose à résoudre ou à tricher, peut-être. Mais même la consommation de musique, je pense qu'on n'aura plus de casque. Enfin, j'imagine peut-être que ce sera dans le cerveau. Enfin, et qu'il n'y aura plus du tout de musique extérieure dans le monde dans lequel on évolue, quoi.
J'aime bien l'exemple d'Akira parce qu'il y a quand même aussi un problème. Alors c'est vrai en esthétique avec plein d'autres choses que la musique, mais la musique quelquefois, même quand elle vieillit bien, elle est immédiatement datable dans l'oreille du spectateur. Donc si dans un film on utilise des musiques extrêmement ancrées dans l'époque où on fait le film, ça veut dire que 20 ans après, même si c'est un film qui se passe dans le futur, on saura qu'on est en 1980 ou 90. Avoir l'intelligence de dire on va prendre une musique peu connue, traditionnelle ou d'un passé musical mal connu, je trouve ça extrêmement habile. C'est en fait, à mon avis, la meilleure option. Par ailleurs, il faut se dire aussi que comme par définition, on ne sait pas ce qu'on écoutera après-demain. On peut imaginer qu'après-demain, on écoutera des choses du temps passé, quel qu'il soit. Il y a une chose que j'aime dans... Alors là, je ne vais pas retrouver le titre. Il y a un roman de Dick dans lequel il imagine que dans le futur, les tubes seront des airs de John Dowland, qui est un compositeur anglais de la Renaissance. Et il en parle tout le temps, et voilà, il explique qu'à la radio, c'est John Dowland qui a du succès. Et j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que là, effectivement, on voyage. C'est un truc qui, aujourd'hui, est invraisemblable. Mais peut-être que, effectivement, dans 100 ans, ce sera le cas. Et si on fait un film comme ça, en utilisant de la musique ancienne pour en faire des tubes de radio du futur, je trouve que c'est beaucoup plus amusant que de demander à un groupe de rock ou à un compositeur de musique électronique d'aujourd'hui de faire des tubes d'aujourd'hui et de les mettre dans un film. Là, on peut être sûr que dans 5 ans, déjà, ça sera vieillot. Ce qui n'est pas forcément grave, mais il faut assumer le fait que quand on voit un film plus tard, en fait, on voit très vite la date où le film a été fait, beaucoup plus que... Voilà, aujourd'hui, quand on voit 2001, on voit les années 60 dans les costumes, alors qu'ils étaient censés faire voyager dans le futur. C'est quand même moins le cas maintenant. Par chance, quand on voit le film et qu'on n'a pas une trop grande culture de l'esthétique, du vêtement, du mobilier, etc., à ce moment-là, on voyage. Mais quand on le voit enfant, ça marche à fond. Quand on le voit plus tard, là, oui, on reconnaît on reconnaît le design des chaises, des tables, et on n'est pas dans ce 2000 du futur, on est dans le passé.
Oui, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'on parle de la musique comme étant une production sonore, mais bien sûr, si on revient un tout petit peu, si je tire un peu la corde vers mon domaine qui est le design, et la question instrumentale aussi quand même, c'est-à-dire de quels instruments on va jouer, quels instruments on peut designer, ce qui est une vraie question dans le design aujourd'hui, hein, des gens qui fabriquent de nouveaux instruments. D'ailleurs, je m'étonne qu'il y ait certaines explorations instrumentales qui n'aient pas plus figurées dans la science-fiction. Alors après, c'est peut-être mon ignorance ici qui parle. Alors je me rappelle d'une chose qui a peut-être déjà, ou bien 15 ans, je dirais, qui était la React Table, qui à l'époque avait eu pas mal de succès, qui était un instrument qui se présentait comme une table sensible, interactive, sur laquelle on disposait des cubes, et en fonction de l'éloignement des cubes du centre, on produisait des sons avec des fréquences et des tonalités différentes. C'est un instrument qui a été utilisé par Björk dans ses concerts, je crois, mais qui est tombé dans un relatif oubli ensuite. Et voilà, j'ai l'impression aussi comme ça qu'il y a des éléments, des objets, des dispositifs qui sont très intéressants et très porteurs, y compris d'un point de vue d'anticipation, qui finalement n'ont pas une très grande fortune ou sont utilisés en dessous de leur potentiel. Et une autre remarque que je voulais faire, alors je ne sais pas si on peut avoir les images de nouveau, parce que comme tu as parlé de 2001 et puis qu'en plus tu m'as dit tout à l'heure que tu aimais bien, je me dis peut-être, on peut balancer cette image que je trouve vraiment fascinante, parce que typiquement, Alors tu dis c'est vieillot, ça fait, enfin, peut-être que tu pensais alors, pas
c'est
à
ça. C'est pas péjoratif. Hein.
Non, j'entends
mais
bien.
Mais ça fait voyager dans le passé, pour moi.
Et alors en même temps, je trouve qu'il fait une chose ici stylistiquement qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il prend ses fauteuils d'Olivier Mourgue, qui au demeurant sont toujours produits, à ma connaissance. Une petite prouesse aussi industrielle, soit dit en passant, avec la mousse polyuréthane là, qui est utilisée, qui sont aujourd'hui compris comme des fauteuils vraiment emblématiques du Space Age, donc vraiment plutôt psychédéliques, colorés et pop, mais il les décale complètement en les situant dans cette espèce de white cube complètement abstrait, minimaliste, et qui pour le coup ne ferait pas tâche dans nos représentations de 2022. Enfin, vous enlevez les fauteuils, on peut être dans Interstellar quasiment. Voilà. Et je trouve que c'est aussi intéressant, parce qu'on se plaignait un peu tout à l'heure du manque de collusion entre des objets du passé et des objets futuristes, ce qui amènerait une sorte de texture intéressante pour de l'anticipation. En fait, on se rend compte que Kubrick le fait.
On pourrait résumer pour dire que le design de science-fiction renvoie à un monde qui n'est pas là, mais dont on veut nous faire croire qu'il est déjà là. C'est une sorte de projection fantasmée d'un certain futur et ce qu'il s'agit de faire, c'est de nous le faire éprouver, de nous le faire sentir. Et là aussi, je pense que le dessinateur pourra aussi en parler.
Tout à fait. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux couleurs, par exemple, et à l'ambiance que je vais conférer à une scène. Donc, plutôt que moi, dans ma bande dessinée, plutôt que de partir sur des codes éculés comme soit Matrix, soit Halo, donc soit du bleu froid métal, soit du vert cyber, qui est absolument atroce, et toutes les déclinaisons de noir, de gris et de vert fluo, moi, je prends les couleurs que j'aime. Donc, moi, j'aime le rose, j'aime la couleur pêche, j'aime le parme, j'aime ce genre de choses. Et le rose, c'est pour moi une couleur assez fascinante qui peut vraiment conférer à la fois le froid et le chaud et que je peux appliquer sur n'importe quelle case pour colorer l'air, en fait. Comme disait Claude Monet, je ne peins pas la cathédrale, je peins ce qu'il y a entre elle et moi. Et en fait, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Donc, je ne me focalise pas sur les designs ou sur le côté cybernétique où il faut que ça fasse futuriste. Par contre, je veux qu'on ait l'impression d'être avec le personnage et ça passe par colorier l'invisible qui est l'air et l'espace où se déroule l'action, en fait. Et donc, moi, je mets beaucoup de rose et de violet dedans parce que c'est pas des couleurs qu'on associe à la SF, forcément. Et après, c'est les outils numériques, mais avec différents niveaux d'opacité, de teinte et d'inclusion aux couleurs de base, ça se fond complètement. C'est pas une BD rose bonbon non plus, hein, mais... J'essaye, alors c'est très prétentieux, mais d'inventer des couleurs qui n'existent pas, qui, à mon sens, n'ont pas encore été vues. Et parfois, je suis surpris du résultat et ça me fait très plaisir quand j'atteins ce niveau de couleurs.
Ok, on approche de la fin. Donc, s'il y a quelques questions dans le public, eh bien, c'est le moment. Je vois des mains qui se lèvent.
Oui, bonjour. Voilà. Alors, je vous ai entendu parler de futur, de space art, etc. Et à un moment, moi, j'ai du mal à me projeter aussi loin, en fait, dans le futur. Et à un moment, en revanche, on a parlé de qu'est-ce qui nous provoque, en fait, tout ça. Et Saul a relevé les titres de les films en fait d'entreprises où ils vont présenter leur techno qui verront le jour dans 10 ans, 20 ans, qui seront là pour démarcher un peu plus tard. J'avais déjà entendu et perçu des trucs comme ça en fait de la part d'un autre auteur de SF. Qui disait bah, comment on écrit une œuvre du futur, on regarde en fait ce qu'il y a dans les cartons des boîtes. Des grosses boîtes industrielles. Je vous avoue que aussi de ce côté-là, et comme tu l'as bien fait remarquer, ça nous amène souvent vers des futurs capitalistes, en fait, qui sont induits aussi par ces mêmes entreprises. Et moi, ça m'excite pas des masses. Et du coup, c'était juste pour dire, hier, j'ai participé à un labo fiction avec les ateliers de l'Antémonde. Il semblerait qu'ils aient pas été super pris au sérieux par les gens qui organisent. Mais enfin, on était 90 et on est sortis de là et on a construit des futurs désirables et ça a été un grand, grand mouvement d'empuissancement. Et je vous invite à reproduire ce genre d'expérience partout, parce que c'est ça qu'on veut. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Ouais, si je peux juste rebondir sur la question en deux mots. Moi, évidemment, je suis prof de design et donc je suis toujours embêtée aussi dans la manière dont on associe strictement industrie et capitalisme. J'espère qu'on peut imaginer d'autres industries. J'ai même des collègues qui travaillent à ça, des nouvelles industries, pour pas... Pour caricaturer, voilà, c'est peut-être pas l'avenir, soit SpaceX, soit la cabane. Il n'y a rien de mal aux cabanes, hein, mais peut-être qu'il y a aussi tout un éventail de choses qu'on n'a pas explorées. Et je suis persuadée que dans ce que vous avez fait hier, il y aurait sans doute plein d'idées que les designers se pencheront dessus.
Merci. Moi, j'ai une question qui est finalement pas sans lien avec ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous disiez, c'est que les imaginaires de science-fiction aujourd'hui qui sont dominants, comme vous disiez, c'est des choses quand même où il y a cette idée de. On parlait des ressources, des limites, où on a un peu l'idée que c'est un futur qui peut se construire sans prendre conscience des ressources, des limites, mais des choses qui sont même justement pas dans le futur, mais très concrète aujourd'hui, quand on parle de l'épuisement des ressources, de l'épuisement de l'énergie. Vous disiez le vaisseau spatial, c'est un symbole, jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi quelque chose qui consomme beaucoup d'essence, donc ça parle à tout le monde aujourd'hui. Et finalement, vous parliez de ce concept qui est très intéressant, des prototypes diégétiques. Est-ce que c'est aussi la fiction et la science-fiction, un peu d'être à l'avant-garde de ça, et d'inventer peut-être un comme il y avait eu un cyberpunk ou un steampunk, un éolien punk, pour aussi que ce modèle-là, auquel on a beaucoup de mal à venir, ce changement de paradigme qu'on a du mal à faire, est-ce que la fiction et la science-fiction peuvent donner un petit coup de pouce là-dessus et nous aider à entrevoir ça ? Merci.
Qui veut répondre ?
Je vais répondre par une pirouette, à savoir qu'un des moyens de faire ce que vous dites, ce serait peut-être d'aller là où la science-fiction n'est pas. C'est vrai qu'on a évoqué un peu deux grands pans de la représentation des environnements, la grande échelle, donc l'urbanité. C'est vrai que c'est un des sujets de choix de la SF, qu'elle soit écrite, filmée ou autre. Et puis après, il y a la domesticité. Hervé parlait tout à l'heure de la maison du futur, aujourd'hui qu'on appelle maison connectée. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'espaces où la science-fiction ne va pas, où elle devrait aller. Bon, après, il doit y avoir des exemples, j'en connais même quelques-uns, mais l'usine, finalement, c'est pas non plus quelque chose qu'on voit tant que ça en science-fiction, ou alors vraiment peut-être pour rejouer l'idée de la fabrication à la chaîne du robot, ou des robots qui fabriquent les objets, mais est-ce qu'on explore vraiment ce que c'est que l'usine du futur, le syndicat du futur, la piscine du futur, la MJC du futur? Enfin, il y a sans doute plein d'espaces, voilà, là j'en ai donné quelques-uns presque en étant un peu au hasard, mais il y a sans doute plein d'espaces qu'on n'a pas encore examinés. Et à mon avis, un des enjeux justement sur l'esthétique de SF, c'est de détacher la chose à représenter de la forme, enfin, même si on ne peut pas distinguer fond-forme stricto sensu, mais de se dire avec ces esthétiques, finalement, où est-ce qu'on braque la lorgnette ? Voilà, je ne sais pas si je réponds tellement à votre question. Mais...
Je vais ajouter un petit mot qui ne répond peut-être pas du tout à cette question, mais peut-être qu'au-delà de la science-fiction, de la création, c'est-à-dire on lance un vaisseau dans l'espace ou on fait une invention qu'on va produire en série et qui change la vie, la science-fiction dont on a besoin aujourd'hui, c'est la science-fiction de la fermeture. C'est qu'est-ce qu'on fait des usines qui ne servent plus à rien ? Qu'est-ce qu'on va faire dans ces villes dont toute l'économie reposait sur des choses qui ne seront plus possibles, comme les stations de sport d'hiver, etc. C'est une science-fiction qui peut être très excitante aussi. Et là, il y a urgence à s'y attaquer, quoi.
Ce que tu dis fait extraordinairement écho aux recherches actuelles en design. Par exemple, à Harvard, en ce moment, il y a une femme qui s'appelle Shannon Mattern, qui elle fait ce qu'elle appelle des études de la maintenance, donc des maintenance studies. Et tout son travail consiste à dire justement que le design, au lieu de penser des dispositifs nouveaux, et donc peut-être aussi la science-fiction, devrait s'intéresser à la manière dont on maintient et on continue de faire fonctionner les choses qui sont déjà là.
Bon, mais je crois qu'on peut s'arrêter là, puisque Il faut céder la place à la suite. Vous pouvez retrouver, bien sûr, nos auteurs en dédicace. Et puis, alors, peut-être aussi en profiter pour aller voir au cinéma peut-être quelques œuvres rétro comme Planète Interdite qui vont nous présenter des designs qui sont datés mais qui restent intéressants. Ou bien Tarkovsky qui a aussi une esthétique bien à lui. Je pensais à Solaris, bien sûr. Voilà, merci à vous. Merci, les auteurs. Merci.